les colonies américaines. On est toujours au 18e siècle. Ça s'est concentré à l'intérieur du 18e siècle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire, selon lui, c'est quoi un réveil? De quoi on parle lorsqu'on parle des grands réveils spirituels? Quelqu'un qui voudrait juste vous essayer. Louise. Oui, alors on pourrait le résumer comme ça. C'est un moment dans l'histoire, dans un lieu donné, où l'Esprit de Dieu semble faire une œuvre très puissante. Et le nombre de conversions, le nombre de consécrations, spécialement la réponse à la prédication de la parole de Dieu, devient très, très puissante, très manifeste. Et les prédicateurs restent comme surpris, perplexes, parce que l'Église continue à faire ce qu'elle faisait. Comprenez, c'est pas les sermons sont pas différents, on n'a pas essayé une autre recette, c'est pas ça là. On prêche la parole de Dieu, on prêche l'Évangile, puis à un moment donné, il y a quelque chose de puissant qui est en train de se produire. Parfois, d'accord, il y a des historiens qui ont cherché à étudier, parce qu'on en a observé un certain nombre dans l'histoire de l'Église, on en a même dans les Écritures, des réveils, je reviens là-dessus, mais les historiens ont essayé de comprendre quand même, essayer de voir, est-ce qu'il y a des dénominateurs communs, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe. Dans certains réveils, on est capable d'identifier des facteurs sociaux que Dieu a pu souverainement mettre en place et qui ont contribué à ce mouvement-là. Dans d'autres cas, il n'y a rien. Tu n'étais pas capable de rien identifier. Tout ce que tu peux dire, c'est les gars prêchent comme ils prêchaient l'année d'avant, prêchent la parole de Dieu, ils ont prié et puis Dieu a fait des choses extraordinaires. Une des conclusions que les historiens chrétiens tirent, c'est que souvent c'est lié à un mouvement de prière, par exemple. Souvent, ces mouvements-là ont été précédés par un temps de prière intensive où un certain nombre de chrétiens étaient attristés par l'état de l'Église, étaient attristés par l'état de leur société, le fait que l'Évangile ne pénétrait pas la société et sont allés dans la prière. C'est pas toujours le cas. Dans ce qu'on va voir ce matin, ça n'a pas été précédé par un mouvement de prière, c'est simplement la prédication de la parole de Dieu. Alors, on n'a pas nécessairement de dénominateur commun, mais dans certains cas, on en a vu. Par exemple, si on parle d'un réveil au Québec, tous les historiens évangéliques, tous ceux qui ont vécu cette période-là des années fin 70, ben 70, début 80, vont dire qu'au Québec, il y a eu un réveil spirituel important. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait nous décrire ce qu'on a vécu dans ces années-là ici au Québec? Oui. Donc toi, tu t'es réveillé parce que tu t'es converti. Ouais. C'était pas 76 par contre? 67. Oui, c'est beau. OK. Merci. J'aime ça d'entendre parler par des gens qui l'ont vécu. Je pense aux plus jeunes, on n'a pas beaucoup de plus jeunes, ceux qui écouteront aussi l'enregistrement, mais parce que le climat spirituel au Québec a changé dramatiquement. Hein? Lorsqu'on entend ces récits-là, tu dis, c'était pas le Québec. Tu sais, si tu l'as pas vécu, tu dis, non, ça, le Québec a jamais été comme ça, c'est pas possible. Je veux dire, nous, il faut toujours chercher des petites percées pour avoir le droit de parler du Seigneur. C'est tout un autre terrain, n'est-ce pas? Mais ça a été la réalité à cette époque-là. Et c'est sûr que dans ce cas-ci, dans le cas du Québec, oui, on regarde ce qui s'est passé socialement dans la société, puis il y a des facteurs qui contribuaient à ouvrir ces portes-là. À travers la Révolution tranquille, l'exode qu'il y a eu de l'Église catholique, mais en même temps, parmi ces gens-là qui étaient à l'intérieur de l'Église catholique, il y avait beaucoup de gens quand même qui avaient une certaine piété, qui pouvaient, dans une certaine mesure, chercher Dieu et donc rencontrer des gens qui leur disent « Non, non, mais regarde, la Révolution tranquille, c'est l'émancipation de la pensée des Québécois, c'est l'instruction, c'est on nous dit plus comment penser, mais regarde, nous autres, c'est ça qu'on va faire avec toi. On va te donner la Bible, tu vas la lire, puis tu vas grandir toi-même dans ta foi. » Wow, ça rentre bien, hein? Ça concorde justement comme ouverture. Et donc, un petit peu comme le mouvement que je vous ai partagé avec la Grande Réforme au 16e siècle en Europe, où cette idée de retourner vers les Écritures, de donner la Bible dans la langue du peuple, concordait très bien avec tout cet éveil à l'étude, à s'instruire, tout ça. Et donc, c'est favorable dans ce cas-là. Alors, dans notre cas, le grand réveil qu'on a vécu dans cette période-là, c'est sûr qu'il y a des facteurs sociaux qu'on peut identifier, mais en même temps, il y avait une œuvre spirituelle puissante qui s'est passée. Et les églises se sont multipliées de manière incroyable. Et il y a bien des gens, là, on a eu notre période dans les années 90 où les chrétiens évangéliques qui ont vécu ça, même les plus jeunes qui n'ont pas nécessairement vécu comme moi, mais qui en ont tellement entendu parler, on avait comme une espèce de nostalgie dans les années 90 où on disait « Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? » Puis là, on a comme passé ça, on a décidé « Bon ben, on relève nos manches, puis la terre est plus dure à travailler, mais on avance. » Mais quand tu as vécu ça, tu te dis « Oh! » Et on en veut un autre comme ça. Tout est comme plus simple. C'est toi qui nous précèdes tout le temps dans notre travail, tu sais. Et Dieu le fait encore. Mais c'est pas comme un réveil. Un réveil, c'est vraiment une œuvre massive de Dieu. D'accord? Dans les Écritures, on a des réveils spirituels. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'en mentionner un? Dans le contexte de ce qu'on a dit là, je parle pas de... Oui, dans l'Ancien Testament, mais oui. Sous Néhémie, il y a définitivement une grande œuvre. Néhémie Esdras. Il y a une grande œuvre spirituelle qui se passe là. Le peuple répond à la parole de Dieu comme il n'avait pas répondu à la parole de Dieu avant. Quand leur cœur est touché, quand vous allez lire ces récits-là, on les a vus dans la dernière année dans les prédications, là, mais la réponse du cœur de l'ensemble du peuple à la parole de Dieu, je veux dire, il y avait des gens qui prêchaient la parole avant. Non. Et donc, tu es obligé de reconnaître que c'est Dieu aussi qui intervient dans tout ça puis qui détermine, qui dispose les cœurs à recevoir la parole de Dieu. Alors ça, c'est les réveils spirituels. Pas de formule magique. On souhaite toujours que Dieu en fasse un. On demande que Dieu vienne en faire un. Puis Dieu, dans sa grâce, décide à quel moment il intervient de manière extraordinaire. Et ce matin, on va aller voir ensemble une période justement dans les colonies américaines où il y a eu ces grands réveils-là, qui sont pas mal les réveils les plus documentés, les plus étudiés, qui nous aident à comprendre ça. Et donc, les historiens vont beaucoup étudier ce qui s'est passé sous le ministère de ces gens-là. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de Jonathan Edwards ou de George Whitefield? George Whitefield, ça vous dit quelque chose? En plus, Jonathan Edwards, peut-être. Deux grands prédicateurs. George Whitefield, à son époque, a probablement été l'homme le plus célèbre en Amérique, d'accord? Et il était célèbre parce qu'il prêchait l'Évangile. Ça vous donne une idée un petit peu du contexte, là. Mais ça a probablement été, à cette époque-là, on s'entend, il n'y avait pas des millions de personnes en Amérique. C'était les colonies qui étaient en train de s'installer. Mais ça a été l'homme le plus populaire, le plus célèbre à cette époque-là. Et il a été pour avoir prêché la parole. Fait qu'on va regarder ça ensemble, un petit peu de cette histoire-là. Puis on va essayer de tirer des éléments aussi pour être édifiés nous-mêmes de tout ça. La période qui précède les grands réveils, on a commencé à la voir déjà la semaine dernière. C'est vraiment la colonisation. Et puis, vous avez une partie des colonies qui sont implantées par des puritains qui cherchent à être près des Écritures. Vous avez une partie des colonies qui sont implantées par des anglicans qui n'ont jamais quitté l'Église anglicane. Et donc, c'est le Sud était un petit peu plus religieux dans le sens négatif du terme. Dans le sens que les gens faisaient partie de la religion anglicane, allaient à l'église, tout ça, sans nécessairement avoir une grande réponse à la parole de Dieu ou une grande réponse dans leur cœur. Lorsqu'on observe cette période-là, on parle là, du début du 18e siècle, d'accord, 1700-quelques, là. Lorsqu'on observe cette époque-là dans ces colonies-là, on voit que les gens étaient très, très appliqués à développer leur prospérité, à réussir, à s'établir, sans nécessairement un intérêt véritable pour toutes les questions spirituelles, pour les questions de Dieu. Et il va se passer, la période des réveils, on la situe de 1731 environ à 1750. C'est pas long, là. C'est comme 20 ans. Mais en 20 ans, il y a quelque chose de profond qui va se produire. Et plusieurs historiens reconnaissent que ça va façonner la base de ce que va être ensuite de ça les États-Unis. D'accord? Si les États-Unis ont gardé une fibre religieuse aussi forte, c'est en bonne partie à cause de ça. Plus forte même que l'Angleterre. D'accord? Alors, l'Angleterre implante une colonie en Amérique du Nord. C'est plein d'Anglicans. Qu'est-ce qui fait que les États-Unis sont plus religieux, plus spirituels? Bien, en bonne partie, c'est dû à ces réveils-là, d'accord? Qui vont se passer sur une vingtaine d'années. Simple commentaire, il y a beaucoup d'historiens, là, je l'ai mentionné un petit peu tantôt, il y a beaucoup d'historiens qui observent avant que Dieu produise un réveil dans un endroit donné dans le monde, dans une période donnée, on observe souvent un déclin spirituel avant. Général, même dans les églises. Ça veut dire que les églises deviennent paresseuses spirituellement, peu consacrées, plus mondaines dans leur attitude à l'égard des choses de Dieu, à l'égard de la parole de Dieu. Et ça a été le cas dans les colonies américaines, même parmi les églises puritaines. D'accord? Tout à l'heure, je vais parler un petit peu plus de Jonathan Edwards, mais Jonathan Edwards lui-même va, au début de son ministère pastoral, va être très attristé de l'état spirituel de son église et des chrétiens en général. Je reviens sur quelques éléments que j'ai mentionnés la semaine dernière, juste pour se remettre un peu dans le contexte, là, puis voir comment ces choses-là vont ensemble. La semaine dernière, j'ai parlé d'une pratique, là. Je sais qu'il y avait beaucoup d'éléments doctrinaux la semaine dernière, mais le Halfway Covenant, c'était une pratique qui avait été au début pratiquée par certains pasteurs. On parle d'églises qui pratiquaient souvent le pédobaptisme, d'accord? Ils baptisaient donc les enfants des croyants. Et pour eux, ça n'impliquait pas automatiquement que ces enfants-là étaient dans la foi, mais disons que ça les préservait jusqu'à ce qu'ils soient instruits dans la foi. C'est un petit peu la vision du pédobaptisme. Et donc, ils pratiquaient cela. Le Halfway Covenant, c'est qu'il y a des pasteurs qui ont commencé à se dire, si, comme bébé, une personne a été baptisée, de facto, il fait partie de l'Église. Et donc, même si lui décidait de ne plus aller à l'Église en grandissant, il aurait le droit de demander à ce que ses enfants soient baptisés. Parce que lui a été baptisé, donc il fait partie de l'Église. Peu importe sa vie, peu importe sa consécration. Et donc, on a commencé à baptiser des enfants de gens qui n'allaient même pas à l'Église parce qu'eux-mêmes avaient été baptisés. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on voit au Québec, n'est-ce pas? Mais bon, dans l'Église catholique, ça va de soi. La raison pour ça est simple. C'est que dans l'Église catholique, au baptême, tu rentres dans la famille de Dieu. C'est une formule magique. Tu te fais baptiser, tu rentres dans la famille de Dieu, tu veux, tu sais. Je veux dire, peut-être que moi je serai donné, mais je vais m'arranger au moins pour que mes enfants soient sauvés, on va les faire baptiser. Ça ressemble un petit peu à ça, là, tu sais. Et donc, il y a quand même une théologie qui peut supporter un peu tout ça, bien que si on parlait sérieusement avec des prêtres, et eux-mêmes le diraient que ça n'a pas de bon sens, probablement qu'ils ne sont pas tous au Seigneur, là. Mais c'est leur théologie. Dans le milieu anglican et dans le milieu des pédobaptistes qu'on trouve à travers les églises congrégationalistes, les puritains, tout ça, La compréhension du baptême n'est pas que automatiquement parce que tu es baptisé, c'est une formule magique, puis boum, tu rentres dans la famille de Dieu, tu vas être sauvé. C'est pas ça. C'est plutôt une espèce de préservation. C'est comme si tu viens sous la foi de tes parents jusqu'à temps que toi-même tu puisses prendre un choix pour ta propre foi. Mais ils se sont mis à pratiquer ça, le Halfway Covenant. Et puis en 1662, il y a eu un synode local, c'est-à-dire une rencontre de pasteurs d'une région donnée qui ont officialisé cette pratique-là. Maintenant, vous savez c'est quoi une église évangélique, vous savez à quel point la décision de nos enfants, la décision de chaque génération d'adhérer ou non à la foi est absolument déterminante sur l'état de l'église. Je veux dire, à la limite, tu ne veux pas qu'il y ait plein de monde qui soit dans l'église, qui pense qu'ils sont chrétiens, même pas à la limite, là, tu ne veux surtout pas qu'ils pensent qu'ils sont chrétiens, puis ils ne sont pas, mais ils sont là, puis pour eux juste venir une fois de temps en temps à l'église, une couple de fois par année, bang, t'es chrétien. Ce que ça donne avant longtemps, n'est-ce pas? C'est des églises moribondes. Mark Dever avait une belle citation lorsqu'on était à T4G. Je ne sais pas si je l'ai cité la semaine dernière, mais il dit des... comment est-ce qu'il a envoyé ça? False teachers makes false converts. False converts hire false teachers. Fait que son point, c'est des faux docteurs qui ne s'assurent pas que les gens croient vraiment dans l'Évangile. Alors, par exemple, ce Halfway Covenant-là, c'était vraiment une fausse doctrine. Ces faux docteurs-là, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils produisent des faux chrétiens. Ils produisent des gens qui ne savent pas vraiment c'est quoi être chrétien, mais ils se disent « j'en ai assez pour l'être, fait que je suis chrétien ». Puis ces gens-là, après ça, qui vont embaucher comme prédicateurs? Ils vont pas en décrétant biblique dans leur embauche d'un prédicateur. Ils vont chercher des gens qui ont de la verve, qui vont enthousiasmer le peuple, qui vont nous aider à dire « ouais, on va changer les affaires », mais pas nécessairement dans la parole de Dieu. Et puis, donc ça va donner ça comme résultat. Mais c'est exactement ça qui est en train de se produire à cette époque-là. Et donc, on a cette pratique-là qui était le « halfway covenant » qui était répandu dans l'Église parce qu'il a été endossé. Un commentaire aussi que je veux mentionner, parce que si vous entendez parler des puritains puis vous faites des lectures sur eux, vous allez entendre parler de toute l'histoire des sorcières de Salem. Vous avez entendu parler de ça? En fait, vous connaissez peut-être plus ça que les puritains, ce qui est assez malheureux. Ce qui est assez malheureux. Mais il y a eu un dérapage en 1692. Je me souviens plus c'est quel état, là, je l'ai dans mes notes. Mais il y a eu un dérapage à cette époque-là. Différents facteurs, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré quelques mois, mais c'est une histoire vraiment malheureuse où il y avait des tensions entre les plus grandes villes et les petites communes. Il y avait des craintes chez des puritains, d'une part, de ce que l'Église anglicane pouvait mettre comme pression, mais il y avait des attaques aussi qui venaient par les Français, qui étaient catholiques, avec avec les Amérindiens qui leur étaient associés. Et donc, c'est un moment où il y avait beaucoup, beaucoup de suspicions. Et à un certain moment donné, il y a des passants qui ont commencé à partir dans une chasse aux sorcières. Et donc, ils ont trouvé dans leur village des dames, essentiellement, qui étaient, peut-être qu'il y avait des pratiques douteuses, peut-être pas, mais finalement, tout ça a terminé dans une série d'exécutions. Et il y a une vingtaine de personnes qui ont été exécutées en quelques mois. Là, des passeurs qui étaient autour de ça ont réalisé que, wow, attends un peu, qu'est-ce qui est en train d'arriver? Alors, ils ont pris position et ils ont mis fin à ça très, très rapidement, d'accord? Mais c'est pas quelque chose duquel on devrait être fier dans l'histoire de l'Église. Puis en même temps, je voudrais pas que si vous lisez des trucs ou si vous écoutez des films, les gens vont vous présenter, ben voici, c'était ça les puritains. Chasse aux sorcières, c'est ça. Puis dans la culture américaine, là, le puritanisme, c'est devenu péjoratif parce que les gens s'en servent pour ça. Ils vont parler des républicains qui sont puritains, ils vont parler des chasses aux soviets, aux communistes qu'il y a eu dans les années 60, sous le macartisme, tout ça. Alors, et tout ça va être associé à ce genre d'esprit-là. Mais historiquement, ce qui s'est passé, c'est un dérapage vraiment malheureux qui a duré quelques mois où quelques individus, quelques pasteurs avec leur commune ont commencé à se lancer dans cette chasse aux sorcières-là et il y a une vingtaine de personnes qui ont été exécutées. C'est vraiment malheureux. C'est là que ça s'est passé. Et puis, les pasteurs sont rapidement intervenus puis ont fait arrêter tout ça. D'accord? Alors, je tiens quand même à le mentionner, là, mais c'est très ponctuel dans l'histoire, bien que ça n'aurait jamais dû se passer. Quelques mentions qui vont nous aider à comprendre les réveils après qui vont se produire. Chez les puritains, on l'a déjà mentionné, l'éducation était extrêmement importante, d'accord? L'instruction était très importante parce qu'on encourageait tout le monde à lire la Bible. Et c'est probablement le mouvement, jusqu'à nous, là, dans les mouvements qui nous précèdent, c'est le mouvement qui a mis le plus gros accent sur l'idée que tout le monde doit lire la Bible, toute l'Église doit lire la Bible, les gens doivent s'instruire dans les Écritures. Et donc, la lecture et l'étude est extrêmement importante. Le taux d'alphabétisme était extraordinairement élevé. On a de la difficulté à l'accoter actuellement par rapport à ces communautés-là. D'accord? Alors, en Amérique, en Occident, on a de la difficulté à accoter actuellement le taux d'alphabétisme qu'il y a eu chez les puritains et dans leur communauté à eux. Tout le monde était instruit afin de pouvoir lire la Bible. D'accord? Et donc, ça a conduit à la fondation du Collège Harvard. Là, je me répète un petit peu, là, mais Collège Harvard a été fondé en 1636, suivant le modèle du Collège Emmanuel de Cambridge. Et il a été fondé au départ par des ministres, c'est-à-dire des pasteurs qui voulaient que des pasteurs soient instruits. L'école a commencé à former aussi des avocats et donc d'autres professions ou d'autres métiers, mais au départ, ça a été fondé pour former les pasteurs. Ils étaient formés en philosophie, ils avaient une formation en sciences, ils avaient une formation en grec, en hébreu, dans leur langue ancienne, tout ça, afin de pouvoir enseigner de manière complète. En 1701, alors 1636, Harvard est fondé, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, 1701, donc déjà même un peu avant ça, ceux qui étaient plus près des Écritures ont le sentiment qu'ils ont déjà perdu Harvard. Et que Harvard est déjà en train de se libéraliser, d'accord? Et donc, ils vont fonder à ce moment-là Yale en 701, afin de donner une formation qui est plus fondée dans les Écritures et qui est moins libérale. Par exemple, lorsqu'ils ont fondé Yale, dans les règlements, est-ce qu'il y en a qui sont dans des collèges privés? Vous êtes allé dans des collèges privés ici? Moi, je suis allé dans un collège privé, non? On avait des règlements plus sévères, tu sais, que la polyvalente. Mais attendez un petit peu ça. Règle de vie pour Yale, d'accord? Tous les enseignants, tous les profs, devront vivre une vie religieuse active, des vies pieuses et sans reproche selon les règles de la parole de Dieu. Ils s'appliqueront avec diligence à la lecture des Saintes Écritures, qui est la source et la fontaine de toute lumière et de toute vérité. Ils s'appliqueront à leurs devoirs religieux en public et en privé. Concernant les étudiants, je voulais juste des petits extraits. Concernant les étudiants du collège, ils manifesteront en parole et par leur comportement respect et honneur à tous leurs supérieurs et ne devront en aucun cas utiliser injures ou langage irrespectueux, ce qui peut ressembler à plusieurs de nos écoles quand même. Un des premiers étudiants de Yale, c'est Jonathan Edwards. Il rentre à Yale à 13 ans. D'accord? C'est une époque où, disons qu'il n'y avait pas... tu ne perdais pas 4 ans au cégep à te demander ce que tu allais faire dans la vie. Tu rentrais là à 13 ans. 4 ans plus tard, il avait terminé ce que nous, on est l'équivalent d'un bac, là, qui est comme un mélange entre le collégial et l'universitaire chez nous. Et puis ensuite de ça, il est retourné là pour faire son master, sa maîtrise. Et puis, il est devenu tuteur aussi d'abord. C'était un esprit brillant, probablement un des esprits les plus brillants que l'Amérique a produit. Tout domaine confondu, probablement que c'est un des esprits les plus brillants que l'Amérique a produit. Certainement le plus grand théologien qu'on a eu en Amérique, mais il a été aussi philosophe, psychologue. Il a étudié beaucoup la psychologie aussi. Il a étudié beaucoup les sciences naturelles. Comme on va voir tantôt, en fait, il va en mourir. Il va mourir d'avoir participé à un test avec un vaccin. Mais donc, c'était un homme, là. C'était une époque où les gens, comme je vous dis, celui qui allait étudier en théologie était formé en philosophie, était formé dans plusieurs autres domaines, d'accord? C'était une époque où c'était assez complet comme formation. Mais en même temps, à travers cette application-là étudiée, on retrouve l'esprit qu'il y avait chez les puritains, qui étaient des gens très sérieux, très consciencieux, qui s'appliquaient à l'étude. Alors, Jonathan Edwards est né en 1703. Il était fils et petit-fils de pasteur. Plus tard, il va devenir pasteur associé avec son grand-père. Et donc, il est petit-fils et fils de pasteur. Il commence à étudier à Yale en 1716. Il va terminer 4 ans plus tard, premier de sa graduation. Et puis, comme j'ai mentionné, il retourne pour sa maîtrise et comme tuteur. Au cours de ses études, il va étudier beaucoup la philosophie aussi. Au début, lorsqu'il est dans sa période d'études, il vit des doutes par rapport à la foi. Il vit des doutes par rapport à la possibilité pour Dieu de le sauver lui et à la possibilité pour Dieu de préserver quelqu'un jusqu'à la fin. D'accord? Et donc, il s'interroge sur ces choses-là. Il est en train d'interagir avec la philosophie. Et la doctrine de la persévérance finale des saints, c'est-à-dire que ceux que Dieu sauve, il ne les perdra pas, mais ils vont être sauvés jusqu'à la fin. Puis lui-même vivait des questionnements. Comme je vous dis aussi, il étudiait la philosophie à cette époque-là. À 18 ans, dans un moment de méditation dans les Écritures, tout ça, il va vivre une expérience personnelle. Il dit que à ce moment-là, Dieu l'a convaincu, non seulement dans sa tête, cérébralement, mais dans son cœur aussi. Il a été saisi intérieurement. Et Jonathan Edwards va chercher ça comme un signe d'une vraie conversion. Ça, c'est important, là. Tout à l'heure, on va parler des réveils, là. Jonathan Edwards va toujours chercher comme un signe d'une vraie conversion un individu qui est éclairé dans son intelligence par la parole de Dieu. Donc, il y a des convictions qui s'installent, mais ces convictions-là deviennent une expérience personnelle. Le cœur est là, le cœur est touché par les vérités de la parole de Dieu, le cœur est porté vers l'adoration, le cœur recherche la sainteté. Et donc, pour lui, sans ça, on ne peut pas parler d'une vraie conversion. Je pense qu'on serait généralement d'accord avec lui, là. Mais ça, c'est lui a vécu cette expérience-là à ce moment-là. Et donc, dans son cœur, il a été vraiment rassuré, affermi, il a eu la conviction que Dieu pouvait le sauver entièrement. Étrangement, si vous voulez lire le passage qui l'a fait beaucoup réfléchir, c'est 1 Timothée 1:17. C'est un tout petit verset qui nous parle de la gloire de Dieu, de la grandeur de Dieu. Et c'est vraiment les vertus, les qualités de Dieu qui ont opéré ce changement-là dans son cœur. Il a dit, si Dieu est comme ça, moi je suis en paix. C'est correct. Je sais qu'il est miséricordieux, je sais qu'il est éternel, je sais qu'il est souverain, je sais qu'il est tout puissant. Ses promesses, il peut les accomplir à mon égard. Et son cœur a été rassuré à ce moment-là et il n'est jamais revenu, et n'a jamais remis ça en question par la suite. Une bonne partie de sa vie, Jonathan Edwards, va s'appliquer à méditer sur la grandeur de Dieu. C'est le théologien par excellence qui nous parle de la souveraineté, de la toute-puissance de Dieu. Si vous cherchez le théologien qui aura le plus influencé John Piper et le plus influencé par le fait même, tout le mouvement qui est à travers Gospel Coalition, puis Together for a Gospel, puis aux États-Unis, ce mouvement-là est identifié comme les, comment est-ce qu'ils appellent, les Young, Restless and Reformed. Et c'est vraiment un mouvement de jeunes ouvriers qui sont passionnés pour une vision de Dieu où Dieu est souverain, Dieu est tout-puissant, Dieu est gracieux. Et ce mouvement-là, ils le suivent. Pardon? C'est maintenant, là, ça. C'est un mouvement qui est actuel, là. J'ai mentionné, je pense que je l'ai mentionné la semaine dernière qu'on était 8000 à la conférence, tout ça, puis j'ai parlé un petit peu de Together for the Gospel. Dans l'assistance qu'on avait là-bas à Together for the Gospel, est-ce que je vous ai mentionné quel âge avaient les gens? Je me souviens plus à qui j'ai parlé de ça. J'ai eu tellement d'affaires dans les deux dernières semaines. Mais c'est ça, on était 8000 à T4G, d'accord? Et à un certain moment donné, Mark Dever, qui présidait une partie des rencontres, a pris le temps de faire lever les gens. Puis là, au début, il voulait honorer les plus vieux pasteurs. Alors, on a identifié qui était le pasteur qui avait été dans le ministère le plus longtemps. Si je me souviens bien, c'est 45 ans dans la même église, pasteur de la même assemblée. Fait que je pense que le prochain va avoir comme il va avoir des preuves à faire. Là. Mais c'était vraiment impressionnant. Mais là, après ça, ce qu'il voulait identifier aussi, c'est combien est-ce qu'il y a de jeunes ouvriers qui sont là. Et je vous dirais qu'à peu près 35 à 40% des 8000 personnes qui étaient là étaient des pasteurs entre 20 et 30 ans. Et ça, c'est extrêmement encourageant, d'accord? Ce mouvement-là, là, qui est pas, t'adhères pas au mouvement, là, t'as pas une carte de membre du mouvement, c'est pas un mouvement officiel, c'est quelque chose que Dieu est en train de faire, à travers des hommes influents comme John Piper, comme Al Mohler, puis tous ces gars-là. Ce mouvement-là aux États-Unis est examiné actuellement. Ils l'observent parce que c'est vraiment impressionnant de voir toute cette cohorte de jeunes hommes-là qui ont une passion profonde pour les Écritures. Et on l'a, les journaux les ont appelés les Young, Restless and Reformed. Et parce que tous les gens dans ce mouvement-là, c'est des gens qui admirent John Piper, tout ça, Jonathan Edwards. Non, on n'a pas vécu ça ici au Québec. Non. Mais donc, le lien que je voulais faire avec Jonathan Edwards, c'est que Jonathan Edwards a consacré énormément d'attention aux qualités de Dieu. Je parle de ses attributs, sa souveraineté, sa toute-puissance. Ça l'a toujours amené à adorer Dieu, à voir la grandeur de Dieu. Ça a été un accent dans sa théologie. Et d'autres vont être influencés par la suite par lui pour ça. C'est pas un gars qui avait beaucoup d'amis à l'école. C'était un gars qui étudiait énormément. Et à l'époque où lui était là à l'école, déjà, il observait vraiment un grand laisser-aller chez les étudiants. Alors, il y avait des étudiants qui étaient là supposément en théologie, mais voici comment est-ce que lui, il décrit. Je vais vous le lire en anglais, puis je le résumerai après. Là. Comment est-ce qu'il décrit à son père dans une lettre? On a une lettre où il écrit à son père, puis il parle de l'état spirituel dans l'école où il est, d'accord? Et voici ce qu'il dit. « Some monstrous impieties and acts of immorality lately committed in the college. » Particularly stealing of hens, geese, turkeys, pigs, meat, woods, etc. Unseasonable night walking, breaking people's windows, playing at cards, cursing, swearing, damning, and using all manners of ill language, which never were at such pitch in the college as they are now. Alors, pour lui, dans sa période où il est là comme étudiant, il dit, on observe des choses comme on n'en a jamais vu dans l'école. Les étudiants ne sont pas respectueux. Il y a beaucoup de vols qui se font dans l'école. Les jeunes sortent la nuit au lieu de rester dans leur dortoir. Leur langage est ordurier. C'est ça. Ils sacquent tout ça. Il dit, on n'a jamais vu ça à l'école de Yale. C'est une école qui a été fondée pour former des ouvriers. D'accord? Je vous rappelle ça, là. Et donc, il va trouver ça aussi un petit peu lorsqu'il va aller comme pasteur quelques années après. En 1726, Jonathan Edwards est appelé comme pasteur, va travailler avec son grand-père. Comme je vous disais, son père et son grand-père ont été pasteurs. Alors, il va travailler pendant 3 ans avec son grand-père. Il va être assistant pasteur de Solomon Stoddart, qui est son grand-père, à Northampton. Et Northampton, à cette époque-là, était un endroit très important au niveau de la foi. Après Boston, c'était l'endroit le plus important, le plus respecté, d'accord? Alors, Solomon Stoddart était un prédicateur très respecté dans la colonie. Il avait beaucoup de verve. Pas toujours d'accord avec son petit-fils. On va voir ça tout à l'heure. Ça va coûter son pastorat à Jonathan éventuellement. Et donc, il va se consacrer à son ministère pastoral avec énormément de sérieux. Il se levait généralement à 4-5 heures du matin. Régulièrement, c'était pas rare qu'il passait 13 heures dans sa journée à étudier. Ça veut dire répondre à des lettres qu'on lui écrivait, étudier, se préparer pour ses sermons, faire de l'écriture. C'est un homme qui a produit beaucoup d'écrits. Et déjà, à cette époque-là, il y avait une pratique qui se faisait, c'est que tu préparais un sermon, puis tu pouvais publier ton sermon. Et là, ton sermon commençait à circuler. Un petit peu comme le Nouveau Testament. D'accord? Paul écrit une lettre aux chrétiens d'Éphèse. Cette lettre-là est recopiée puis commence à circuler. Là, tu as l'imprimerie. Fait que c'est beaucoup plus simple. Mais les gars écrivaient des sermons. Ces sermons-là étaient publiés et circulaient. Donc, ils pouvaient le prêcher le dimanche à l'église. Mais après ça, ça continuait à circuler. Pardon? C'est les premiers blogs. Exactement. Oui. Peut-être avec moins de fautes de français. Je sais pas. Quoique c'est en anglais. Moins de fautes d'anglais. Mais ça, déjà, ça commence à lui bâtir une réputation. D'accord? Les gens commencent à lire ses écrits, voient que c'est un homme très érudit, un homme très complet. C'est un grand théologien. Tantôt, je vais parler de Whitfield. Là. Whitfield avait un seul message toute sa vie, c'est l'Évangile. C'était pas un théologien. Jonathan Edwards, c'est un théologien, donc il couvre toutes les Écritures. Toutes les grandes doctrines importantes des Écritures, d'accord? Il était extrêmement attristé au début de son pastorat, je l'ai mentionné. Il était très attristé par l'état spirituel, spécialement de la jeunesse, qu'il ne trouvait pas consacré à Dieu, attaché à Dieu, cherchant Dieu. Et ça, c'était lourd pour lui. En 1731, d'accord, il a commencé à observer un début de regain spirituel. Comme je le mentionnais, il a été pasteur avec son grand-père pendant 3 ans. Après ça, son grand-père est décédé et c'est lui qui a pris la relève de l'Église. D'accord? L'Église l'a appelé, c'est lui qui a pris la relève. En 1731, il commence à voir quelque chose se produire lorsqu'il enseigne, lorsqu'il prêche, lorsqu'il exhorte. Il y a comme une réponse à la parole qui commence à se manifester. Puis il dit, oups, il y a quelque chose, Dieu est en train de faire quelque chose dans le cœur des gens. Tant et si bien que lorsqu'il va arriver en 1734, ça va augmenter jusqu'en 734. Puis en 734, on est au milieu d'un énorme réveil qui est en train de se produire dans cette région-là, mais qui va se répandre après ça jusqu'à la fin de 1700, des années 50, d'accord? Et donc, ça va devenir un gros mouvement. Il continue à faire toujours la même chose. Pardon? Oh non, c'est pas mondial du tout, c'est très local. Quand je dis un gros mouvement, là, c'est vraiment les colonies qu'il y a autour et c'est vraiment juste cette région-là. Alors, George Whitefield va avoir un ministère aussi en Angleterre, mais on ne verra pas des réveils aussi puissants en Angleterre sous son ministère. Mais Jonathan Edwards, parce que des années après, il a écrit sur le réveil, ces réveils-là, là, celui de Northampton, là, en 1735, bang, ça arrête comme ça. Ceux qui se sont consacrés continuent à marcher, mais comme les nouvelles conversions s'arrêtent, paf, comme ça. Puis il y a un événement malheureux qui arrive, j'arrive à ça. Là. Mais plus tard, quand Jonathan Edwards va essayer de comprendre la période des réveils, c'est Dieu. Parce qu'il continue à prêcher les mêmes sermons, il continue à enseigner la parole de Dieu, d'accord? Et donc, ça, il y a des instructions pour nous à voir dans ça. On doit continuer à prêcher la parole de Dieu. On peut être sensible à notre époque. On peut comprendre les questions que les gens posent. Je ne suis pas obligé de donner des illustrations avec des gramophones. Je peux donner des illustrations avec des blogs. Tu sais. On peut adapter un petit peu des éléments dans nos messages. Mais on prêche la parole de Dieu et on continue à prêcher la parole de Dieu. C'est ce qu'on a à faire. Et on n'a pas essayé de trouver des formules pour la réinventer, cette parole-là. Ça, c'est fondamental. C'est sa conclusion à lui parce qu'il a vécu avant, le réveil, puis après. D'accord? c'est évident aussi selon les Écritures, là, mais son expérience le confirmait aussi. Je vais vous lire encore un petit extrait en anglais, puis je le résumerai ensuite, d'accord? Parce que je pense que c'est en 1734, il a écrit un petit essai pour résumer ce qui est en train de se produire, toutes les conversions, les gens qui se consacraient. Et voici ce qu'il dit dans cet essai-là. Vous pourriez le trouver sur le web. « A faithful narrative of the surprising work of God by Jonathan Edwards ». Je pense que vous le trouveriez assez facilement sur le web. Mais voici un extrait. « A great and earnest concern about the great things of religion and the eternal world became universal in all parts of the town and among persons of all degrees and all ages. » Alors, il dit, il y a un intérêt énorme pour les choses de Dieu, pour la question de l'éternité de l'âme, où on s'en va dans notre éternité. Il dit, en ville, les gens parlent de ça, et à travers toutes les strates de la population, tous les groupes d'âge sont affectés par ça. « The noise amongst the dry bones wax louder and louder. » Il dit, vous connaissez l'image biblique des ossements desséchés. Alors, il dit, les ossements commencent à reprendre vie. On les entend de plus commencer à bouger. All other talk about spiritual and eternal things was soon thrown by. All the conversation in all companies and upon all occasion was upon these things only, unless so much as was necessary for people carrying on their ordinary secular business. Donc, il dit, tout le monde parlait toujours de ça. On s'occupait de nos affaires, là, mais une fois qu'on avait fini de parler business, tout ce qu'il fallait faire, les gens voulaient juste parler de ça. Un petit peu comme Gérard nous le décrivait tout à l'heure, d'accord? Comme on l'a vécu ici dans ces années-là, ou comme certains l'ont vécu. Other discourses than the things of religions would scarcely be tolerated in any company. The minds of people were wonderfully taken off from the world. It was treated amongst us as a thing of very little consequence. Alors, les questions du monde, les questions de cette vie étaient traitées comme des choses secondaires sans importance, parce que tout le monde était préoccupé de Dieu, des choses de Dieu et de l'éternité. Et il est juste un observateur, il dit, c'est ça qui se passe. C'est pour ça que je vous dis plus tard, il va dire, mais c'est Dieu qui fait ça. On prêche la parole, puis c'est Dieu qui décide quand ça se produit, puis comment ça se produit. Il faut que j'accélère un petit peu. Edwards a également publié un de ses sermons les plus importants pendant cette période, intitulé « Une lumière divine surnaturelle ». Et ça, c'est un petit peu là, ce que je mentionnais tout à l'heure. Là-dedans, il essaie de décrire sa compréhension de la conversion. D'accord? Et pour lui, la conversion, c'est non seulement quelque chose qui se passe au niveau rationnel, une compréhension, mais c'est un cœur qui est bouleversé par une vérité qu'on lui apporte. Et ce cœur-là répond à ça. Ce cœur-là est porté vers l'adoration. Et spécialement, ce qu'il recherchait et ce qu'il observait, c'était ces gens-là étaient portés vers la sainteté, voulaient fuir le péché. D'accord? Et pour lui, c'est ça une conversion. C'est quelqu'un qui répond à l'Évangile avec une bonne compréhension de l'Évangile, mais qui va répondre avec son cœur à cette vérité-là, et qui donc est porté à adorer Dieu, à adorer Christ, à vouloir servir Dieu, à vouloir marcher dans la sainteté, à vouloir annoncer l'Évangile. Et donc, il a écrit un traité pour résumer ça. Dans cette période-là des réveils, il va y avoir toutes sortes d'excès qui vont se produire. Et plus tard, je pense que je n'aurai pas le temps de voir ça avec vous ce matin, mais Edwards va écrire un traité pour essayer de définir quels sont les fruits de l'esprit qu'on doit chercher dans un réveil spirituel. Parce que ce que vous avez déjà entendu parler à travers le Toronto Blessing, là, avec des roar in the spirit, puis des rugissements de l'esprit, puis tout ça, ils ont vécu tout ça. Ils ont vu tout ça. Et il y a des moments, il y a certains moments où les prédicateurs arrêtaient le service, puis ils disaient, regarde, ça, vous sortez. Ça ne vient pas de l'esprit de Dieu, après ça, on continue. Parce qu'il y avait toutes sortes d'excès qui se sont produits aussi dans cette époque-là. Et ce que Edwards va faire, c'est qu'il va dire, ce qui m'importe, ce n'est pas les manifestations extraordinaires, c'est la poursuite de la sainteté qui doit sortir de là. Et s'il y a ça, il était plus ouvert à ce que Dieu pouvait faire. Donc, il va pas dire que toutes ces choses-là ne sont pas de Dieu, mais il cherche les vrais fruits de l'esprit, par exemple. D'accord? Le vrai fruit de l'esprit dans la vie des gens. J'aime son illustration, une illustration qu'il utilise pour parler de la vraie conversion ou de la vraie œuvre de l'esprit dans le cœur d'un individu. Il dit, c'est la même chose que quelqu'un qui est capable d'expliquer que le miel est doux et agréable au palais et prendre une cuillère de miel, puis l'expérimenter. Il dit ça, c'est la conversion. C'est lorsque toutes ces vérités-là que tu sais sur le miel, vous savez c'est quoi, hein? Je sais pas s'il y en a qui n'aiment pas le miel, là, mais tu prends une cuillère à thé de miel, là, c'est extraordinaire. Mais alors pour lui, il dit c'est la même affaire. Quelqu'un qui va décrire ça, qui sait que c'est doux, il sait que c'est sucré, il sait tout ça, puis le goûter. Et donc pour lui, c'est la même chose avec Dieu. Il n'enlève rien à la connaissance de la vérité. Tout ça passe par une prédication solide de la parole de Dieu, d'accord? Alors, il y a énormément de conversions dans cette période-là. Beaucoup de gens aussi se reconsacrent. Ils étaient déjà au Seigneur, mais ils se reconsacrent. Jonathan Edwards, dans sa théologie, un des éléments qui est très présent, c'est que lui voit notre passage sur Terre comme un combat cosmique. D'accord? Je l'ai déjà dit dans une prédication. En réalité, c'est ça qui se passe. L'histoire de l'humanité, c'est une guerre cosmique entre le diable et Dieu. D'accord? Et donc, lui avait toujours ça à l'esprit. Et il voyait notre cheminement comme croyant. On est engagé dans cette guerre-là et le diable va toujours vouloir venir détruire ce que Dieu est en train de bâtir. Alors, il ne va pas être surpris, mais il va être choqué lorsqu'en 1735, le réveil va s'arrêter d'un coup. Bang! Et d'une manière vraiment dramatique, son oncle, Joseph Hawley, après avoir écouté une série de prédications où il était question du jugement éternel, tout ça, a perdu le cap complètement. Il est devenu hystérique en ayant peur pour son âme et il est allé se suicider en se tranchant la gorge. Alors ça, c'est sorti dans les journaux, puis boum, tout s'est arrêté. Les gars continuent à prêcher le même message, il n'y a plus rien qui se passait. Et donc, il n'a pas été surpris quand ça s'est produit, mais évidemment, il a été attristé, il a été choqué de voir que, oups, il y a une personne qui a perdu les pédales dans cette histoire-là, et puis tout s'arrête là, d'accord? Et c'est pas la fin des grands réveils, mais c'est la fin de ce réveil-là à Northampton. Oui, Louise? Non, c'était pas ce, c'est ça, le sermon le plus connu de Jonathan Edwards, qui est absolument excellent. Mark Dever, une année au mémorial du décès de Jonathan Edwards, ce dimanche-là, il a simplement lu le sermon de Jonathan Edwards. C'est « Sinners in the Hand of an Angry God ». Mais non, c'est pas sous sa prédication. Ces prédicateurs-là parlaient beaucoup du jugement éternel, énormément. Et « Pécheurs dans les mains d'un Dieu en colère ». Pécheurs dans les mains d'un Dieu en colère. Mais c'est pas sous la prédication de ce sermon-là, puis après ça, non, pas du tout. Mais effectivement, il parlait beaucoup du jugement éternel, il parlait beaucoup de donner ton âme à Christ pour te mettre à l'abri du jugement de Dieu. Et c'est ça s'est produit à ce moment-là, puis pouf, le réveil a pris fin d'une manière drastique. Mais les grands réveils n'allaient pas s'arrêter là. Il va vraiment falloir que j'accélère. Je m'excuse. George Whitefield. Alors, juste pour dire, je vais vous mentionner quelques autres noms. Je ne m'attarderai pas sur eux. Ils n'ont pas eu l'importance de George Whitefield, puis je vais avoir le temps de vous parler de lui. Mais c'est simplement pour mentionner, dans les années qui vont suivre, le réveil à Northampton s'est arrêté là, d'accord? Mais les réveils, eux autres, vont continuer à se multiplier. Et donc, on a d'autres personnages qui ont joué des rôles importants. Il y a eu plusieurs prédicateurs. On parle des frères Tennant, Gilbert, John et William. Il y a Samuel Davies. J'en avais d'autres ici aussi. Ces gars-là avaient tous des accents particuliers sur lesquels ils mettaient dans leur prédication. C'est-tu Davies? C'est Samuel Davies? Non, les frères Tennant ont beaucoup prêché contre le danger d'un ministère fait par un non-chrétien. D'accord? Alors, ils s'en prenaient aux pasteurs, qui étaient pasteurs, mais qui étaient libéraux, puis qui ne croyaient plus dans l'Évangile. Et eux, ils disaient, mais vous n'êtes pas chrétien. Et il y a un énorme danger à votre ministère. Et ça arrive encore aujourd'hui, d'accord? Si vous allez à l'université, puis vous parlez avec un prof dans une faculté de théologie qui est fondamentalement catholique, bien, cette personne-là dit qu'elle est chrétienne. Si vous lui dites, OK, on va aller voir c'est quoi l'Évangile dans les Écritures, tout ça, est-ce que tu crois à ça? Mais non, il ne croit plus à aucun miracle que Jésus a fait, il ne croit plus à rien de surnaturel, tout ça. La conclusion à la fin, c'est t'es pas chrétien. T'es pas chrétien. C'est très dangereux ce que tu fais parce que tu fais tout ça au nom de Christ. Et donc, c'était ça, eux autres mettaient en garde et prêchaient contre ça. Davies, lui, et ça, c'est, j'aimerais lire là-dessus, Davies, lui, s'est appliqué beaucoup à aller rejoindre les esclaves noirs avec l'Évangile. Et c'était pas simplement d'aller les rejoindre puis leur annoncer l'Évangile. Une fois qu'ils se convertissaient, là, on est dans la période de l'esclavage aux États-Unis, il les invitait à prendre le repas du Seigneur avec les Blancs, dans l'Église. Et ça, c'était pas mal révolutionnaire, d'accord? Et son point, lui, c'est l'Évangile doit aller rejoindre tous les êtres humains, c'est fini là. Et donc, j'aimerais ça lire sur lui, ça doit être pas mal intéressant. Mais donc, pour lui, il les traitait tous comme des égaux. Les réveils se sont produits en Nouvelle-Angleterre dans toutes les dénominations, que ce soit chez les baptistes, les congrégationalistes, chez les anglicans. Dans tous les milieux, il y a eu des réveils. Alors, George Whitefield était un prêtre, un évangéliste anglican, je m'excuse, donc anglais qui partait de l'Angleterre, et il a fait sa formation à Oxford. Il a étudié avec John et Charles Wesley. Certains d'entre vous avaient déjà entendu parler des frères Wesley. Il n'a jamais été un grand érudit comme Jonathan Edwards. C'était pas un théologien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait un message, c'était l'Évangile. Mais Dieu lui avait donné une grande voix, tout d'abord. Alors, il a prêché. Là, tout à l'heure, on l'avait dans un chant. Tu veux-tu revenir en arrière? Ça, c'est George Whitefield. C'est sûr que c'est difficile de faire des estimés. Là. C'est dur de faire des estimés de foule en 2012. Alors, à l'époque, ça devait l'être encore plus. Mais les historiens estiment que dans certaines de ses prédications en plein air, il y avait entre 20 et 30 000 personnes qui l'écoutaient. Ça prend une voix pour prêcher dehors avec tout ce monde-là. Moi, c'est sûr que ça n'aurait pas été mon appel. Il avait aussi un style assez dramatique. D'accord? Alors, quand vous imaginez les puritains qui prêchent, c'est stern, c'est sérieux, puis on prêche la parole de Dieu. George Whitefield ne prêchait pas comme ça. Ça bougeait, puis c'était dramatique, puis tout ça. Et donc, à quelque part, il y avait comme un bon show, si je peux dire, mais il prêchait l'Évangile très, très, très solidement, très clairement. Et lui-même va s'opposer à certaines fausses doctrines. Oui. Non, c'est Wesley. C'est Wesley. Ça se peut qu'il y ait eu des débats avec Wesley. Là. Je ne pourrais pas vous dire n'importe quoi. Mais John Wesley, lui, va croire à la sanctification complète. Il va croire que c'est possible ici sur la terre de ne plus pécher. Lui-même ne va jamais l'expérimenter, mais il va croire ça. Fait que ça, c'est Wesley. Là. Je ne sais pas si on parle de la même chose. Ah, ça se peut. C'est possible. OK. Une passion profonde pour prêcher l'Évangile aux perdus. Alors, un exemple, il a été un grand ami personnel de Benjamin Franklin jusqu'à sa mort. Il était très près de lui, puis Benjamin Franklin ne s'est jamais vraiment converti. Il était sympathisant aux chrétiens, mais il ne croyait pas que Christ est Dieu, et donc il ne croyait pas dans le salut à travers le christianisme, à travers l'œuvre de Christ. D'accord? Il restait sceptique, et il restait sceptique jusqu'à la fin de ses jours. Ces deux hommes-là qu'on discutaient ensemble de la foi constamment. Mais Benjamin Franklin supportait des œuvres de George Whitefield, tout ça. Il l'aimait beaucoup, c'était un grand ami à lui, sans qu'il se convertisse jamais. Alors, Whitefield a commencé son ministère en Angleterre de manière assez éclatante en attaquant des ministres anglicans qui n'étaient pas chrétiens, qui n'étaient pas convertis, comme je le disais tout à l'heure. Là, c'est un petit peu le même phénomène. Alors, il les attaquait publiquement et il a commencé donc évidemment à attirer l'attention, à attirer des réactions aussi. Et puis, il a commencé à avoir un ministère de prédication en plein air. À ma connaissance, il n'a jamais été pasteur d'une église. D'accord? C'était un prédicateur itinérant. Ce qu'on voyait tout à l'heure lorsqu'il prêchait en public, là, c'était une espèce d'échafaud qu'il s'était fait construire puis qu'il traînait avec lui. Puis, il le construisait à chaque... Il faisait monter à chaque place où il allait prêcher. Et il prêchait constamment l'Évangile. C'était son seul message. En 1738, George Whitefield va venir faire un premier voyage aux États-Unis, en Amérique, et il va venir fonder un orphelinat qu'il va supporter à travers des donateurs et lui-même jusqu'à la fin de sa vie. Il va revenir quelque temps plus tard et là, il va commencer un grand tour de prédication de Philadelphie avec toutes les colonies du Sud. Et il prêche l'Évangile en public, parle souvent de l'enfer, parle souvent de la damnation, de mettre son âme en sécurité en se confiant en Jésus-Christ. C'est un évangile très, très clair, très complet. Et puis, très rapidement, il est devenu vraiment un homme super célèbre pour la prédication de l'Évangile. Ça serait difficile à imaginer ici au Québec. Il était populaire pour ça parce qu'il prêchait l'Évangile avec énormément d'éloquence. En 1740, et là, il y a un réveil qui est en train de se produire sous le ministère de George Whitefield. Alors, en 1740, rappelez-vous, 1735, le réveil sous Jonathan Edwards, pouf, ça s'arrête là. 1740, Jonathan Edwards écrit à George Whitefield pour faire connaissance avec lui parce qu'il trouve ça extraordinaire ce qui est en train de se produire. Et donc, ces deux hommes-là vont se lier d'une profonde amitié. George Whitefield va venir le visiter chez lui, chez John. Il va loger chez lui. Il est énormément impressionné par cette famille-là. Madame Edwards, parce qu'il écrit sur elle, Sarah Edwards était assez spéciale. Elle a eu 11 enfants, très instruits dans la parole de Dieu. Elle discutait avec les pasteurs qui venaient loger à la maison. Elle échangeait avec elle de théologie avec eux. Elle conduisait ses enfants vraiment dans une vie très pieuse. Et je vais juste lire rapidement le mot que George Whitefield a écrit concernant la famille de Jonathan Edwards. « A sweeter couple I have not seen. Mrs. Edwards is adorned with a meek and quiet spirit. She talked solidly of the things of God and seemed to be such a helpmeet for her husband that she caused me to renew those prayers which for some months I have put up to God, that he would be pleased to send me a daughter of Abraham to be my wife. » C'est vraiment touchant. Alors, il dit, j'ai jamais vu un couple aussi beau que ça. Il dit, Madame Edward est très douce, très gentille. Elle appuie énormément son mari. Elle est très instruite dans les questions bibliques et peut en discuter avec nous. Tant et si bien que ça m'a amené à recommencer à prier pour une prière que j'avais mis de côté depuis quelque temps, que Dieu voudrait bien me donner une fille d'Abraham comme épouse. J'ai aimé ça, fille d'Abraham. C'est cute, hein? Parce qu'il voulait une vraie convertie. Il voulait une fille dans la foi, une fille d'Abraham dans la foi. Il faut presque que je m'arrête. OK, 2-3 commentaires. Je vais vous lire une autre citation. Je sais que je suis en anglais, là, puis j'essaie de vous faire des résumés, mais c'est juste pour vous donner un petit peu le sentiment de ceux qui allaient se placer sous le ministère de George Whitefield. Nathan Cole, qui était un cultivateur, après avoir écouté Whitefield prêcher en 1740, a écrit « He looked as if he was clothed with authority from the great God, and a sweet solemn solemnity sat upon his brow, and my hearing him preach gave me a heart wound. » Sa prédication m'a blessé au cœur. « By God's blessing, my old foundation was broken up, and I saw that my righteousness would not save me. » Alors, il dit, il semblait être revêtu d'autorité, une autorité divine, et sous sa prédication, j'ai été blessé au cœur, Dieu m'a atteint au cœur, et j'ai réalisé que mes fondements religieux sur lesquels je m'appuyais pour être sûr de mon salut ou pour espérer de mon salut ne seraient pas ce qui viendrait me sauver. Et cet homme-là s'est converti sous le ministère de George Whitefield. Comme je l'ai mentionné, ça a été un grand ami de Benjamin Franklin. Il a essayé de gagner son ami au Seigneur jusqu'à la fin. Franklin avait écrit sa propre épitaphe à l'avance. Puis Whitefield a écrit une autre épitaphe, puis il a dit, regarde, dans son épitaphe, il avait juste ajouté sa conversion. Puis il dit, si t'ajoutes, parce que Benjamin Franklin avait une vision assez sombre de sa vie, puis il trouvait que sa vie n'avait pas été significative, puis n'avait pas servi à grand-chose. Et George Whitefield lui dit, oui, mais si t'ajoutais juste ta conversion là-dedans, il dit, là, tu verrais que ta vie était glorieuse. Mais il ne s'est pas converti quand même, pour autant qu'on puisse le savoir. S'il y en a qui désirent pousser de la lecture, je pense pas que c'est en français, malheureusement. Treatise on Religious Affections, c'est le traité que Jonathan Edwards a écrit plus tard pour essayer de comprendre les réveils, comprendre les excès qu'il y a dans les réveils qui sont les fruits de fausses conversions, comprendre le fruit de l'esprit qui se produit à travers les réveils, et puis parler de ce que c'est un véritable amour pour Dieu qui est produit par l'Esprit de Dieu. C'est vraiment intéressant. J'en ai lu une bonne partie avec les gars, avec mes 3M. Là. Très, très intéressant. Comme je mentionnais, Jonathan Edwards va éventuellement être envoyé de son église, et je vais terminer là-dessus. Là. On va terminer 2 minutes en retard. Son grand-père, Solomon Stoddart, avait enseigné quelque chose de faux. Il avait enseigné que dans le repas du Seigneur, l'Évangile était annoncé. Et donc, pour le salut des non-croyants, on devrait absolument s'assurer que le plus de non-croyants possible prennent le repas du Seigneur, puisque l'Évangile est là. D'accord? Jonathan Edwards, qui a vu tous les excès à travers les réveils, il dit non. Il dit « Seules les personnes qui marchent activement avec le Seigneur devraient prendre le repas du Seigneur. » Ceux qui sont en train de marcher avec Dieu, c'est un moment d'examiner ta conscience. C'est un moment d'examiner si tu es en règle avec le Seigneur. Et c'est là que tu devrais prendre le Seigneur. Ça va le conduire à adresser un reproche public à deux jeunes gens qui avaient une vie dépravée, mais qui venaient à l'Église. Et à un certain moment donné, il va les réprimander en public du haut de la chair. Ces deux jeunes gens-là faisaient partie d'une des grandes familles de l'Église. Ça s'est arrêté là. Fait qu'ils ont pris l'Église a pris un vote 230 contre 23. Ils ont renvoyé Jonathan Edwards. Comme quoi, tu peux prêcher la vérité, tu peux faire n'importe quoi. Non, c'est pas ça qui va être déterminant. À ce moment-là, lui va décider d'aller consacrer les prochaines années de sa vie à aller travailler pour une mission d'évangélisation auprès des Amérindiens. Il va implanter une église auprès des Amérindiens. C'est la période de sa vie où il va écrire le plus, il va produire le plus de littérature. Et il va décéder en 1758. Smallpox, c'est quoi smallpox? Traduisez-moi ça, smallpox. La picote, c'est ça la picote? La varicelle? Merci. Alors, il va accepter de participer à un test pour un vaccin contre la varicelle. Puis le vaccin va l'emporter. Et donc, il va décéder en 1758, le 22 mars 1758. La variole, merci. OK, chicken pox, la varicelle, small pox. En tout cas, pox, il est mort. Mais ça a été vraiment tout un homme de Dieu. Et ce qui est le fun avec Jonathan Edwards, c'est qu'on a beaucoup de ses écrits. Alors, on peut être édifié. Si vous cherchez « Sinners in the Hand of an Angry God », si vous pouvez lire un petit peu, ou faites-le passer à travers Google, on croit que ça peut sortir drôle. Là. Mais ça vaut la peine parce que là, c'est juste une prédication. Mais ça vous amène à entrer en contact avec sa prédication. On va terminer avec un mot de prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ces grands réveils, Seigneur. Ils sont précieux parce que tu peux façonner des nations dans ces périodes-là, Seigneur. Tu peux donner un élan qui va après se poursuivre pendant des décennies, voire des siècles. Et Seigneur, je veux te remercier pour ces hommes qui ont consacré leur vie. Je pense à George Whitefield qui était parfois attaqué avec des roches. On lui lançait des bêtes mortes pendant qu'il prêchait. Mais continue à prêcher ton évangile, Seigneur, avec fidélité. Je veux te remercier pour leur consécration, pour ce qu'ils nous ont transmis, Seigneur, et pour les âmes qui ont été sauvées sous la prédication de la parole. C'est en Jésus-Christ que je te prie. Amen.